France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Antique et antoque, histoire de fausse monnaie, drachmes et tétradrachmes, nomos, stater, sesterce, denier, aureus. Comment différencier un vrai et un faux? Vous savez, quand on a les monnaies entre les mains, des monnaies venues de l'Antiquité. D'ailleurs, pourquoi étaient-elles fabriquées? Alors pour duper et s'enrichir, sans doute, mais pas seulement. Et c'est là que le sujet du faux interpelle, car il nous aide à comprendre le passé. Stater a ça aussi l'histoire, avec beaucoup de talent.
Quand vous voyez toutes ces pièces, enfin, c'est même pas encore des pièces, c'est des plans.
Je sais que ce sera une pièce.
Mais pour l'instant, c'est pas une pièce.
Et à qui profite la fraude?
Tout sera faux.
Quels que soient les soupçons qui peuvent étayer telle ou telle hypothèse, ce qui est vrai, c'est qu'au cours de l'histoire, les faux ont souvent joué un rôle bien précis.
Qu'on le couvre d'or!
Xavier Mauduit. Le cours de l'histoire.
Ah, bah, il en restait une. Aujourd'hui, une histoire de faux, de fausse monnaie. Julien Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur au département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France. Vous êtes particulièrement chargé des monnaies grecques, hein, c'est ça. Votre spécialité. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Charles Parizeau-Sillon, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence en histoire ancienne à l'Université d'Orléans. Et Maryse Blette-Lemarquant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche au CNRS, spécialiste, alors, de l'archéométallurgie, c'est bien cela?
Oui, c'est ça. L'archéométallurgie, c'est une discipline des sciences archéologiques qui consiste à étudier les objets métalliques au moyen de méthodes de sciences des matériaux ou de géosciences. Alors c'est une pratique que nous avons développée au laboratoire d'Orléans depuis de nombreuses décennies, selon différents objectifs et au moyen de différentes méthodes d'analyse.
Et l'analyse, ce n'est pas seulement pour identifier des faux, on l'entend bien, mais que, il y a des faux. Julien Olivier, c'est quoi un faux? Vous allez me répondre, c'est ce qui n'est pas vrai, bien sûr, mais je sais que ma réponse serait beaucoup trop courte.
Alors, c'est un bon début, déjà. C'est ce qui n'est pas vrai, c'est surtout ce qui n'est pas légal. Je pense que l'histoire de la fausse monnaie commence à peu près immédiatement après qu'on ait inventé la monnaie, mais... par définition, la monnaie, c'est un objet qui est déterminé par le pouvoir émetteur. Et d'ailleurs, Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, dit bien que le nom grec pour monnaie, qui est nomos, de nomisma, pardon, dérive de nomos, de la loi. Et donc, la fausse monnaie, c'est la loi qui a été frappée par quelqu'un qui n'avait pas le pouvoir ou l'autorité légale pour le faire.
Et voilà, c'est ça. On a cette idée de faux parce que, Charles Parizeau-Sillon, vraiment, quand on réfléchit à l'idée de faux, moi, la réflexion première, c'est de me dire, ce sont des filous qui vont imiter des monnaies avec un métal un peu moins précieux, et puis voilà. Mais c'est beaucoup plus complexe, cette histoire-là.
Alors, ça reste vrai.
Ça reste vrai, voilà.
Je crois, des filous, on pourra retenir cette image. Ouais. Mais bien sûr, oui, c'est plus complexe, c'est-à-dire que la fausse monnaie, quoi qu'il en soit, répond toujours à une demande. C'est pas forcément la réponse que les usagers souhaitent, mais elle répond à une demande. Et donc, je pense que c'est ça, en fait, le cœur du sujet qu'on peut aborder.
Oui, avec ces fausses monnaies, nous avons ici la réflexion même sur ce qu'est la monnaie. Parce que c'est pas simple, hein, la monnaie, c'est pas une évidence. À partir de quel moment on commence à frapper des monnaies? C'est quelle destination de faire une monnaie, de prendre un bout de métal, et puis, pas seulement de métal d'ailleurs, et puis de mettre un signe dessus?
Alors, dans le monde méditerranéen, en tout cas, parce qu'on parle de ça, donc de ce qu'on appelle la monnaie grecque, ce sont les premières monnaies qui ont existé dans le monde méditerranéen, qui est d'ailleurs un terme assez impropre, parce que ce sont pas vraiment les Grecs qui ont inventé cette monnaie, cette pastille de métal hein, qu'on imprime d'un type, d'une iconographie, éventuellement aussi d'inscription. Ce sont les Lydiens, donc un royaume qui est aujourd'hui dans le nord-est de la Turquie, hein, autour de Sardes. On connaît un des derniers rois qui s'appelle Crésus, qui est très célèbre, mais c'est un de ses ancêtres qui a inventé ces monnaies. Et l'idée de la monnaie, c'est pas de permettre forcément les échanges, parce qu'on faisait des échanges avant, il n'y avait pas besoin de monnaie pour faire du commerce, pour faire des échanges. Mais là où avant, on a des objets qui sont tout le temps testés, tout le temps pesés, des barres de métal qu'on va débiter et peser en fonction de ce dont on a besoin, eh ben on va inventer un objet dont l'autorité dira c'est une monnaie qui vaut, je ne sais pas, un trité, une drachme, un tétradrachme, et pour vous garantir qu'elle est de bonne qualité, qu'elle est de bon poids, je mets mon image dessus. Et donc, là où avant on pesait, Maintenant, on va compter. On va compter la monnaie. Et c'est ça, l'invention, finalement, de la monnaie, c'est de déterminer qu'on a un objet qui est insécable, par définition, parce qu'on va vous donner une pièce, deux pièces, trois pièces, quatre pièces, et on va garantir qu'on peut les utiliser en toute confiance.
Avec l'idée que nous avons ici un point de métal, avec une marque pour garantir que c'est le bon point de métal, mais très vite, c'est la marque qui prend le dessus sur l'idée de la valeur. C'est plus tellement le poids de métal. Il peut y avoir ici l'idée que la fausse monnaie naît à partir du moment où le pouvoir décide de conserver une marque en disant voilà, ça vaut tant. Et puis, bah, j'y ajoute un peu d'alliage parce que j'ai besoin d'en fabriquer plus.
Alors, bien sûr, les pouvoirs politiques ne sont pas gênés pour manipuler la monnaie, ça c'est sûr, et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Néanmoins, il y a quand même une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que durant l'essentiel de la période dont on parle, l'Antiquité, malgré tout, même si il peut y avoir une marge, un bénéfice dégagé par les États sur la production des monnaies, fondamentalement, la monnaie, au moins le pivot des systèmes économiques, c'est l'or, c'est l'argent, selon les cas, et les monnaies valent leur pesant de métal. Donc les autorités politiques n'ont pas non plus intérêt à trop jouer avec cette valeur. Quant à savoir si les faussaires ont attendu que les pouvoirs émetteurs trafiquent la monnaie pour s'y mettre aussi, moi je pense qu'ils ont eu l'idée bien plus tôt.
Oui, voilà, c'est ça, dès le début. Marie Zeblette Lemarquant, quand vous regardez donc ces monnaies, vous êtes apte à partir d'un bout de métal avec une marque de savoir quels sont les différents alliages?
Oui, bien sûr, c'est le principe de toutes les méthodes que nous appliquons. Alors ces méthodes, déjà, elles doivent préserver les objets, parce qu'on travaille sur des objets du patrimoine qui ont une valeur historique, archéologique. Alors, on a développé un nombre assez important de méthodes, suivant les problématiques aussi qu'on souhaite aborder. Au laboratoire, on a développé des méthodes qui faisaient appel à la physique nucléaire, parce que ça avait l'avantage de préserver les pièces et de permettre de déterminer la composition élémentaire, c'est-à-dire pour répondre à la question de quoi sont faites ces monnaies. À la fois les éléments qui sont présents en grande quantité, les éléments majoritaires, mais également tous ces métaux et tous ces éléments qui sont présents en très faible proportion. Ce sont des impuretés en fait des métaux et qui nous renseignent sur tout un tas de considérations, à la fois comment on a produit ces pièces, d'où viennent les métaux.
Oui, et il n'est pas question de toucher à la monnaie elle-même, c'est-à-dire d'en prélever un morceau, parce que ça va l'abîmer. Alors ça peut arriver, bien sûr, mais ça dépend aussi de la valeur de la pièce, ça dépend de plein de paramètres.
Alors nous sommes autorisés, ça c'est une autre génération de méthodes qu'on utilise maintenant, à faire un micro-prélèvement qui est invisible à l'œil nu. Et on analyse la très faible quantité de matière qui est prélevée.
Voilà, micro-prélèvement. Non mais c'est vrai que Julien Olivier, conservateur du département des monnaies à la Bibliothèque nationale de France, l'idée de prélever un peu de notre patrimoine, alors si c'est pour la science et pour l'analyse.
Alors on est d'accord pour les micro-prélèvements, mais effectivement pas plus. Mais ce sont des méthodes qui sont alors vraiment capitales pour nous, parce que par définition, la monnaie, c'est un objet qui est produit en série. C'est-à-dire que au département des monnaies, médailles et antiques, ce qu'on appelle le cabinet des médailles, à la Bibliothèque nationale, on conserve 600 000 monnaies et médailles, de toutes les époques, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, de tous les pays, de toutes les régions du monde. Et alors, ce qui est quand même, malgré tout, une infime partie de toutes les monnaies qui ont pu être produites dans l'histoire de l'humanité, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui signifie quand même que pour avoir une idée de ce que c'est que le métal utilisé pour un frappermoniage, on ne peut pas analyser une monnaie ou deux monnaies. Il faut en analyser des dizaines ou des centaines pour voir effectivement l'évolution éventuellement et puis la diversité des techniques et des stocks métalliques qui sont employés. Donc ce sont des méthodes d'analyse qui n'utilisent que des micro-prélèvements mais qui, mises en série, permettent de mieux comprendre la logistique finalement monétaire et comment ont été produits ces objets, autant par les pouvoirs officiels que par les faussaires.
Oui, parce que c'est ça, hein, c'est l'idée aussi que les faussaires savent faire des monnaies par définition quand on réfléchit à la manière dont sont fabriquées ces monnaies de l'Antiquité. Nous allons tous au coin.
La fabrication des monnaies comporte deux phases. La fabrication des instruments de frappe, la fabrication des rondelles de métal destinées à recevoir des empreintes qui en feront des pièces. Les instruments de frappe sont des blocs d'acier appelés coins, sur lesquels ont été gravés en creux les effigies, les éléments décoratifs et les inscriptions qui doivent apparaître en relief sur les pièces. Souvent, les projets, notamment pour les pièces de monnaie, sont exécutés en plâtre, dans un format environ trois fois supérieur à celui de la pièce à réaliser. Ces maquettes sont reproduites en métal, soit par moulage, soit par galvanoplastie. Ces maquettes métalliques sont placées sur le tour à réduire, qui conçut, suivant un principe analogue à celui du pantographe, les reproduit automatiquement au diamètre définitif, en les gravant sur la section d'un cylindre d'acier, lequel devient ainsi un poinçon si la maquette est en relief, ou un coin si elle est en creux.
Exceptionnel, la musique d'habillage de cet archive de 1970. Nous sommes arrivés au 8e étage. Nous allons pouvoir parler des fausses monnaies. Charles Parizeau-Sillon. L'idée de la fabrication des monnaies, c'est de prendre un bout de métal, c'est ça, de l'avoir le plus plat possible et d'utiliser des coins. On peut rappeler un peu comment ça se fabrique une monnaie?
Oui, bien sûr. Alors bon, d'abord, je pense que là, on parlait d'outillage de la monnaie de Paris. Évidemment, dans l'Antiquité, l'outillage était un peu plus simple, mais le principe fondamental reste le même. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la majorité des monnaies, alors en métal précieux, puisqu'on parle de ça surtout, étaient effectivement frappées, mais toutes ne l'étaient pas. On en reparlera peut-être, il y avait des fausses monnaies qui n'étaient pas frappées, qui étaient directement coulées. Maintenant, pour ce qui est de la frappe des monnaies, le plus simple, c'est peut-être de prendre l'exemple d'un atelier officiel, pour commencer. Si on pense à l'atelier de Rome à l'époque impériale, qui est un de ceux qu'on connaît le mieux par des inscriptions, on sait que sous Trajan, par exemple, au début du IIe siècle, on retrouve dans l'atelier impérial de Rome une centaine d'ouvriers qui sont qualifiés, spécialisés, avec une forte division des tâches, et puis ils sont divisés en corps de métiers. Alors, ce sont des esclaves ou des affranchis en général, Et parmi ceux-là, il y a ceux qui s'occupent de la confection des alliages, donc les fondeurs en tant que tels. Et puis il y a une soixantaine d'ouvriers qui sont préposés à la frappe. C'est qu'une étape de la chaîne opératoire, mais elle est très très fortement, très importante et puis très symbolique aussi. Et donc pour la frappe, effectivement, il faut employer d'une part bien sûr des flancs, c'est-à-dire donc les pastilles de métal préparées et non empreintes, et puis des coins, c'est-à-dire des coins monétaires, donc des matrices. Alors en général en bronze avec une forte teneur en étain dans l'Antiquité, même si peu parfois s'en trouver en fer, et puis ensuite on va frapper le flanc entre ces deux coins. Et cette technique-là, donc, qui est employée, je dirais, à grande échelle dans les ateliers officiels, c'est en fait aussi la technique qu'emploie pour l'essentiel les faussaires.
Oui, alors pour les faussaires, il faut être drôlement habile pour réussir à graver un coin, parce qu'on grave l'image à l'envers.
Alors, drôlement habile ou drôlement malin? Puisque justement, dans les ateliers officiels, on retrouve des graveurs, je dirais attitrés, qui sont hautement qualifiés, donc des sculptores dans le monde romain. Et effectivement, c'est un art, c'est un savoir-faire très recherché, c'est la glyptique, c'est la taille des pierres fines au départ. Et les faussaires, pour la majorité d'entre eux, ne sont pas des graveurs, ce sont des artisans métallurgistes, des bronziers, ils n'ont pas ce savoir-faire. En revanche, eux, ce qu'ils savent faire, parce qu'ils en font tous les jours pour le travail du bronze, c'est du moulage. Donc la majorité du temps, les coins qu'ils emploient sont, on a pu le montrer maintenant, surmoulés à partir de monnaie officielle. Donc pareil, ils peuvent être éventuellement retouchés si nécessaire. Des fois, on voit les bords de la monnaie officielle qui a été moulée, s'ils font mal leur travail de faussaire. Mais voilà, c'est comme ça qu'il se passe, disons, des services des graveurs.
Marie-Isabelle Marquant, c'est possible d'identifier la manière par laquelle a été fabriquée une pièce, savoir si elle a été frappée, si elle a été moulée? Est-ce que tous ces détails-là peuvent apparaître pour regarder de très près?
Alors déjà, la première façon d'étudier la pièce, c'est de l'observer, de l'examiner à différentes échelles. Certes à l'œil nu, mais aussi sous le binoculaire, pour voir des petits défauts qui trahiraient donc les procédés de fabrication mis en œuvre. Mais l'analyse que nous réalisons avec ce micro-prélèvement renseigne aussi, d'une certaine manière, sur les procédés de fabrication. Parce que ce micro-prélèvement, il va de plus en plus profondément dans la matière et on peut voir l'évolution de la composition de la surface vers l'intérieur. Et dans le cas des fausses monnaies antiques en argent, qui sont le plus souvent plaquées, on voit très nettement cette épaisseur d'argent auquel succède le cœur de la pièce qui est fait en cuivre ou en alliage cuivreux. Un métal beaucoup moins vil par rapport à l'argent. Il y avait à peu près dans l'Antiquité un rapport de 100 en termes de valeur entre les deux métaux.
Avec ici la possibilité de conserver un poids similaire?
Exactement. Et ça, c'est pour ça, en fait, que la plupart des fausses monnaies sont des monnaies qui imitent les monnaies d'argent, parce que l'argent et le cuivre ont des densités extrêmement proches. Donc, on conserve l'allure générale, la géométrie de la pièce, avec un poids très proche.
La balance ne suffit pas, Julien Olivier.
Oui, alors c'est vrai que ces monnaies plaquées, c'est traître. Alors, il y a toutes celles qu'on voit, parce que cette argenture, effectivement, dans beaucoup de cas, elle a en partie sauté. Et donc, ou parce qu'on a testé la monnaie dans l'Antiquité, parce qu'on se posait aussi dans l'Antiquité la question de ces faux. Donc on l'a testé, puis on s'est rendu compte que bah, derrière l'argenture assez fine, bah, y a du bronze. Et où parfois, avec l'action du temps, simplement, bah, cette couche s'est détachée et on repère ça. Mais des fois, on ne l'a pas encore repéré. Et ça me rappelle un souvenir qu'on a ensemble, d'ailleurs, avec Maryse, il y a pas trop grand nombre d'années encore, quand je faisais ma thèse de doctorat, avec une pièce. Alors, moi, j'ai travaillé sur les Ptolémées, c'est les rois grecs d'Égypte. Et donc, une pièce d'argent qui était un peu embêtante, parce qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Elle était bonne, mais un peu bizarre, un peu étonnante, mais rien ne permettait de dire que c'était un faux, a priori. Mais en l'analysant précisément avec cette méthode de prélèvement, de micro-prélèvement, le laser a commencé à rentrer, c'était du bon argent. Puis, très vite, on a vu que la teneur en argent s'est effondrée, remplacée par du cuivre et de l'étain, donc c'était du bronze. Donc, c'est une monnaie de faussaire qui a continué à circuler depuis l'Antiquité, qui a continué à nous tromper jusqu'il y a quelques années.
Il est possible d'ailleurs que l'État lui-même, l'autorité, décide de fabriquer des monnaies de ce type-là. Parce qu'à un moment, quand on a besoin de monnaie, mais qu'il n'y a plus d'argent, on peut essayer de trouver des astuces.
Alors oui, il y a... Et c'est d'ailleurs là... C'est une des questions sur le faux, ce n'est pas que de la matérialité. C'est-à-dire que le cas d'Athènes, par exemple, est parfait. Athènes, à la fin de la guerre du Péloponnèse, ça ne va pas très bien. On est en 406, 405 avant Jésus-Christ. Les Spartiates ont envahi le l'Attique et les Athéniens n'ont plus accès à leurs mines d'argent. Donc, problème, comment on paye la guerre? Et les Athéniens, à un moment, vont décider de fabriquer non plus leur grande monnaie d'argent, les tétradrachmes ou les drachmes en argent pur, comme ils faisaient jusque-là, mais ont autorisé la frappe et la production de monnaies qui ont la même taille, qui ont les mêmes types, la même iconographie que les monnaies athéniennes, mais qui sont en cuivre, en bronze en l'occurrence, recouvertes d'argent. Et donc, là, c'est l'État qui fait matériellement de la fausse monnaie, c'est-à-dire une monnaie qui vaut le prix de la monnaie d'argent, mais qui n'est plus de la monnaie d'argent, mais elle est légale. Et elle est légale tant que l'État décide qu'elle est légale. Et à un moment, et c'est Aristophane nous parle de ça, c'est marrant, Aristophane nous parle dans les grenouilles de la mise en circulation de ces monnaies, en disant, voilà, c'est vile monnaie qui arrive, qui remplace nos belles monnaies. Et puis, dans l'Assemblée des femmes, une quinzaine d'années plus tard, il raconte le moment où l'État dit, c'est bon, ça vaut plus rien ces monnaies, avec un personnage qui a ses monnaies dans sa bouche et qui dit, ça y est, ça vaut plus rien, les monnaies que j'ai dans la bouche ne valent plus rien. Et donc, c'est là que cette monnaie, si on n'avait pas ces textes, on les mettrait dans le médaillé avec les faux, en fait. Mais c'est pas un faux. C'est une monnaie officielle, c'est une monnaie légale, parce que l'État a des problèmes.
C'est subtil, hein, Charles Parizeau.
Oui, et justement, là, c'est ce que disait Julien, on touche à un point central, qui est que on peut le dire, justement, parce qu'on a les sources littéraires qui nous disent que, dans ce cas précis, Athènes a effectivement eu recours à ce procédé. Alors, c'est une question, du coup, qu'on s'est aussi posée pour la période romaine, à la fois républicaine et impériale, parce que, de fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monnaies plaquées qui nous sont parvenues, à tel point que certains chercheurs, certains spécialistes, en ont conclu que ça ne pouvait pas être autre chose qu'une fraude d'État, quelque part. Alors on y est revenu, en l'occurrence on ne croit plus cela. D'abord il faut se rappeler aussi que Rome produit beaucoup, beaucoup de monnaie, dans des quantités incomparables à celles de la plupart des ateliers grecs de l'époque classique, et ça prend du temps, c'est compliqué de frapper des monnaies plaquées. Donc lorsque Rome avait un problème, elle avait plutôt tendance au contraire à employer des leviers plus classiques, réduire la teneur en métal précieux. C'est beaucoup plus simple, hein, en réalité, et pour des effets finalement assez similaires.
Parce que c'est ça, hein, c'est l'État qui a besoin de monnaie pour que tout fonctionne. Et puis, il y a cette quantité d'or, d'argent et de tous les métaux, hein, qu'on peut utiliser pour les monnaies. Mais d'ailleurs, les faussaires eux-mêmes en ont besoin de ces monnaies-là, enfin de ce métal-là. Comment ils font pour se le procurer? Alors, on achète de l'or. Moi, je ne pourrais pas faire une fausse monnaie, ça demande. Mais tant et tant d'étapes, ça semble très, très compliqué. Hein.
Alors, c'est sans doute très compliqué. C'est sans doute très lucratif. Et c'est sans doute très dangereux, parce qu'il ne faut pas vous faire piquer quand vous êtes un faussaire. Ça, c'est vrai dans l'Antiquité. On a un cas à Dimée dans un atelier du Péloponnèse. D'ailleurs, ils sont quatre là-bas. Ça donne un rapport de force avec l'atelier de Rome où ils sont une centaine. Les quatre, c'était dans l'atelier officiel. Ils ont fait des fausses monnaies et ils ont tous été condamnés à mort. Donc ça coûte cher.
Dans l'atelier officiel, ils faisaient des fausses monnaies.
Oui, ils ont fraudé eux.
Ouais, d'accord.
Donc voilà, et donc ça coûte très cher. Donc eux, ils avaient accès au métal de l'atelier, simplement ils ont détourné le métal de l'atelier. Au lieu de faire des bonnes monnaies d'argent comme on leur demandait, ils ont fait des monnaies de bronze plaquées d'argent. Et ils ont gardé le reste pour... Bon, ça leur a coûté cher. Après, des objets métalliques, on en trouve. Quand vous voulez avoir de l'argent, si vous prenez une monnaie officielle de bon argent que vous la fondez, vous pouvez faire, je ne sais pas, 10, 15, 20 monnaies qui sont plaquées. Et puis, vous avez sans doute d'autres types d'objets d'argent, ou des résidus d'argent, ou des morceaux d'argent que vous pouvez récupérer par ailleurs. Pareil pour le bronze, hein, vous pouvez tout à fait refondre. Faut jamais sous-estimer l'importance du recyclage de ces matériaux. Ces métaux, ces alliages, ils étaient à disposition à travers toute une série d'objets qui entouraient ces personnes.
Quelles sont les fausses monnaies, en tout cas la manière de fabriquer des fausses monnaies les plus habituelles, Marie-Zébelette Lemarquant, quand vous trouvez des fausses monnaies, c'est quoi? C'est un métal moins précieux et puis qui a été entouré d'argent, par exemple, pour faire une pièce d'argent, c'est ça souvent?
Oui, c'est ça. On a décrit donc ce cas des monnaies plaquées, où l'argent se résume à une fine couche d'argent, d'argenture, qui entoure un cœur, une âme en métal vil, qu'il s'agisse de cuivre ou de bronze. Mais il y a une autre typologie de fausse monnaie, Charles l'a évoqué tout à l'heure, qui a été produite par coulée. Et ça, c'est notamment au IIIe siècle de notre ère. On trouve énormément de ces pièces. Donc là, l'étape de frappe n'existe plus. Les faussaires ont fabriqué des moules à l'aide de monnaie authentique, en imprimant la monnaie dans une boule d'argile qu'ils ont fait cuire. Ça a donné donc un moule dans lequel ils ont versé du métal. Et bien souvent, le métal qu'ils ont versé ne contient même pas d'argent. Il s'agit de bronze, un bronze, donc un alliage cuivre-étain, riche en étain, et ce qui donne un alliage plutôt blanc. Donc on se dit que ça pouvait relativement tromper au moins par la couleur. Mais néanmoins, certaines monnaies qui nous sont parvenues, on a du mal à croire que c'était qu'elles ressemblaient réellement à des monnaies d'argent au moment où elles ont été mises en circulation.
Oui, si je peux juste ajouter un point sur les monnaies coulées. Alors, l'avantage qu'elles présentent pour nous, par contre, c'est que précisément, contrairement aux métaux, l'argile, les moules, une fois utilisés, ils sont à usage unique, ils ne se recyclent pas. Et donc, les faussaires devaient s'en débarrasser, les jeter. Alors, parfois, ils les jetaient dans des dépotoirs, dans des latrines, des choses comme ça. On le retrouve, il y a des inventaires qui ont été faits par certains de nos collègues, en dernier lieu, Jérémy Chameroy et Pierre-Marie Guillard. Et en fait, du coup, ça laisse beaucoup plus de traces. Et donc, dans des villes comme Trèves, comme Lyon, comme Aoxt, des villes comme Sexy, on va retrouver des moules, parfois par centaines, parfois par milliers, et qui attestent de toute évidence la présence d'ateliers de faussaires. Et donc, ça laisse beaucoup plus de traces que les monnaies plaquées qui pourtant ont été produites en bien plus grand volume.
Il est possible de dessiner une géographie des ateliers de faussaires?
Alors oui, bien sûr. Alors, tu veux peut-être en parler pour moi.
Il y a la Grèce, oui. Et il y a Rome.
Oui, tout à fait.
Allez, on commence par la Grèce. Est-ce qu'on suit la chronologie, Julien Olivier?
Alors, une géographie des ateliers, ça va être une géographie brève, parce que dans le monde grec, on n'a pratiquement pas retrouvé d'ateliers monétaires officiels déjà. On sait qu'ils existent, mais on ne les a pas retrouvés. Et on a trouvé très peu de matériel. C'est pratiquement à chaque fois qu'on trouve des lieux qui sont dédiés à la production de monnaie, ce sont des lieux de faussaires. Et ce qui est étonnant, c'est que dans la plupart des cas, ils n'ont pas l'air d'être très cachés. C'est-à-dire que je pense à un cas à Paphos, par exemple, à Chypre, ou encore mieux à Karnak, donc dans le sud de l'Égypte.
Et pas en Bretagne.
Pas en Bretagne. On parlera peut-être de la Bretagne après, mais à Karnak, dans le sud de l'Égypte, on a retrouvé un atelier de faussaires du 2e siècle avant Jésus-Christ dans le temple. Dans le temple, à côté d'une petite chapelle à quelques dizaines de mètres de la salle hypostyle. Pour nous, ça interroge un peu, parce que ça veut dire que ces productions de faussaires, pour l'époque romaine, pareil, en Égypte, on a retrouvé à Kaskaroun, donc on est à Dionysas, on est entre la forteresse romaine du coin et le temple. Et donc, ça pose la question du statut de ces faussaires. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des faussaires qui sont là, qu'on pourrait l'imaginer, un peu tapis dans l'ombre pour écouler des monnaies et contre tout le monde, finalement, pour tromper tout le monde? Ou est-ce qu'on a plutôt affaire, c'est l'hypothèse qu'on a, en tout cas, au regard de ces ateliers qu'on a trouvés dans des endroits aussi exposés, parce que imaginez, vous avez trois fours dans le temple de Karnak, c'est pas discret, hein. Des productions qui, en fait, répondent à un besoin. D'ailleurs, vous êtes dans le sud de l'Égypte, alors vous êtes loin d'Alexandrie où il y a l'atelier monétaire, vous avez besoin de monnaie, mais il n'y a pas de monnaie. Et l'État central ne se préoccupe pas tellement de vous donner les monnaies dont vous avez besoin, c'est pas son problème. Et donc, vous avez quand même besoin de monnaie pour payer des impôts, pour payer des tâches menues, etc. Et donc, vous allez produire vos monnaies, simplement, qui ressemblent, qui imitent les monnaies officielles. Alors, oui, ce sont des fausses monnaies, mais les autorités locales doivent être au courant, mais les autorités centrales ne seraient pas d'accord du tout, sans doute. Mais, malgré tout, ça fonctionne. Et ça, c'est pour des petites monnaies de bronze.
Oui, voilà, c'est ça, c'est la petite monnaie de bronze. C'est-à-dire que, ici, la valeur d'une petite monnaie de bronze fabriquée dans un tel atelier a la même valeur en poids de métal qu'une monnaie ailleurs. C'est aussi créer de la monnaie parce qu'on a besoin de monnaie.
Voilà, mais ça, c'est pour des petites valeurs, c'est-à-dire des choses pour acheter un peu d'huile, rentrer au bain. Vraiment des petites valeurs. Je pense qu'on n'aurait pas ce type d'atelier pour faire payer des grandes monnaies d'argent. Alors là, ça passerait pas. Mais les ateliers de faussaire qu'on connaît pour le monde grec généralement, c'est ça. Et le statut de faussaire pourrait être interrogé. C'est-à-dire, vous faussaire, oui, pour l'État central, mais pour les autorités locales, ça arrange bien les choses.
Est-ce que la question pourrait se poser de la même manière dans le monde romain, Charles Parizeau-Sillon ?
Alors, oui. Je reviendrai peut-être sur la question de la géographie juste après. Si on revient sur cette question peut-être du statut, alors elle est difficile cette question parce que bah, précisément on n'a guère que les vestiges matériels pour à interpréter. Bon, d'abord je dirais quand même que aussi la localisation des ateliers de faussaire qui effectivement parfois paraît pas du tout périphérique ou ben elle est aussi liée à la nature des activités de ces artisans au départ et qui leur fournit un alibi, puisqu'en fait, ce sont des artisans métallurgistes qui, a priori, ont pignon sur rue, et dont, pour lesquels, ce ne sont pas des faussaires spécialisés très souvent, hein, enfin, en tout cas pour le monde romain, et donc, bah, la production de fausses monnaies, c'est plutôt une activité épisodique, opportuniste, secondaire, et bah, à la limite, c'est plutôt un avantage de faire ça dans l'atelier, je dirais, classique, qui a pignon sur rue, parce que bah, ça justifie les allées et venues de combustible, de métal, le fait de faire chauffer un four, le bruit de la frappe, bah, dans le fond, les bronziers font ça tous les jours. Donc, bah, c'est peut-être ce qui explique que beaucoup de ces ateliers ne soient pas forcément disons, isolés, excentrés. En revanche, les outils eux-mêmes, ceux qui sont incriminants, qui ne peuvent être utilisés que pour faire de la fausse monnaie, souvent on va plutôt chercher à les cacher ou à les éliminer. Donc voilà, il y a quand même cet enjeu-là. Après, bien sûr, bah, des fois, on a le sentiment que la fausse monnaie remplit un vide, hein, que la monnaie officielle ne permet pas de remplir. Se pose dans ces cas-là, effectivement, la question de la fausse. Je dirais que toutes les monnaies qu'on pourrait qualifier de non officielles ou d'irrégulières sont peut-être pas des fausses monnaies. Mais bon, si on se concentre sur le cas de la fausse monnaie, là, clairement, on perçoit l'intention clandestine et l'intention frauduleuse des artisans. Pour ce qui est de la géographie maintenant, dans le cas du monde romain, on va dire que ce phénomène est connu partout, dans tout l'Empire, et durant toute la période. C'est un phénomène structurel, mais en revanche, il est beaucoup plus fort en Occident, de manière générale, plutôt dans les provinces gauloises, germaniques, en Italie également, hein, et puis sur le limes danubien également.
Donc, c'est-à-dire aux marges de l'Empire romain, vous avez cité Trèves, vous avez cité ces espaces-là. Pourquoi par là-bas ?
Alors, Démarche bien intégrée quand même, parce que Lyon, c'est la capitale des Gaules quand même. Oui. Et c'est un fort lieu de concentration de trouvailles. Mais démarche quand même aussi parce que, et ça peut paraître paradoxal, mais c'est là où on trouve les soldats. Or, on pourrait penser que l'armée, c'est justement le bras armé de l'autorité politique, c'est ce qui pourrait réprimer en premier lieu la fausse monnaie. Sauf que les populations militaires, elles emploient beaucoup la monnaie. Donc justement, il y a une demande. Et donc peut-être que l'installation d'une population militaire dans une région a plutôt tendance, au contraire, à encourager, plutôt qu'à dissuader la production de fausse monnaie.
Et il y a une géographie des fausses monnaies trouvées, parce que les ateliers, c'est une chose, mais après, pour la circulation, on va les trouver partout ou c'est juste une piste de réflexion, peut-être il y a une étude à faire.
On n'en trouve pas tant que ça, en fait. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que dans le monde grec, on a très peu de textes qui parlent de monnaie en général, et à chaque fois qu'on a des textes, pratiquement, c'est pour parler des faux. Donc, on a l'impression que ça omnubile les textes législatifs. Et même les textes littéraires qui évoquent à un moment la monnaie. La fausse monnaie, on l'a pratiquement à tous les coups. Par contre, quand on regarde les trésors, les trouvailles, etc., là, on en a pratiquement... Alors, les médaillés dans les collections publiques, on les a plutôt écartés, donc on en a très peu. Mais même dans les trésors, on en a plutôt peu, en fait. Et ce qui est étonnant, c'est que dans certaines régions, quand on les trouve dans des trésors, elles ont pu être repérées et elles restent quand même en circulation. Et là, on en vient quand même aussi à la question du manque chronique de monnaie qui est vrai dans tout le monde antique, et, enfin, même sans doute encore après, pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'elle a beau être fausse, on a beau l'avoir repérée comme fausse, il y en aura une dans le trésor ou deux ou trois dans le trésor, ben on va quand même la garder. Alors peut-être qu'on la changera contre un prix un peu moindre, mais on va la garder parce que c'est mieux que rien, en fait.
Il y en a plus dans le monde romain ?
Alors, beaucoup, beaucoup plus. À l'échelle de l'Occident surtout, hein, de la partie occidentale de l'Empire, en tout cas dans les trouvailles isolées qu'on va dans des contextes d'habitat urbain, dans les villes d'Occident, parmi les monnaies dites d'argent, on a souvent 20, 30, 50% de monnaies qui sont des monnaies plaquées, en réalité de fausses monnaies. Donc c'est vraiment un phénomène massif. Il y a peut-être un biais, hein, peut-être qu'on les jette, qu'on les élimine davantage, et d'ailleurs ces monnaies, on ne les retrouve pas dans les trésors. C'est le principal moyen d'épargne des populations antiques, et on voit que les populations cherchent ces monnaies et parviennent assez bien à les éliminer dans l'ensemble. Il y a très peu de monnaies fausses dans les trésors. Mais dans les villes, il y en a beaucoup.
Ouais. Intéressant, hein, de se dire que là où on met son trésor au cas où, bah, on a viré toutes les fausses monnaies. Ça veut dire qu'on sait déjà les identifier aujourd'hui dans le cours de l'histoire antique et en toc, histoire de fausses monnaies.
Alors monsieur, vous avez deux pièces dans la main. Quelle est la vraie, quelle est la fausse ?
Et c'est difficile à définir. Évidemment, quand on n'est pas spécialiste, on peut penser que celle-ci, par la qualité de son dessin, elle paraît plus vraie que l'autre. Mais autant demander au vendeur lui-même de confirmer ou d'infirmer cette opinion.
Mais je ne vais pas affirmer, en fait, parce que vous êtes trompé. C'est-à-dire que La fausse, c'est celle-ci, c'est-à-dire que les matériaux employés, c'est de l'argent. Celle-ci est en plomb, enfin un alliage de plomb d'étain. Celle-ci, c'est de l'argent. C'est celle-ci la vraie, en fait.
Ah oui, une vraie archive de 1982. Maryse Blette-Lemarquant, vous travaillez évidemment sur ces métaux de l'Antiquité, avec tout ce que l'on peut apprendre des métaux sous toutes les formes. Quand il s'agit de monnaie, alors il y a la volonté de savoir comment une monnaie est constituée. On vient vous voir aussi pour vous dire, est-ce que celle-là est une vraie ou une fausse? Il y a cette question-là.
Alors, ça peut être une question, bien entendu, quand il s'agit donc de mettre en évidence ou non qu'il s'agit d'une fausse monnaie antique. Par exemple, récemment, un archéologue m'a confié une pièce, il était tout content parce que c'est une monnaie romaine et c'était un type inédit qu'on ne connaissait pas. Donc, il espérait que ça soit un nouveau type. Malheureusement, c'était une fausse monnaie avec une gravure maladroite qui associait un type d'une face avec un type de revers tout à fait inédit. Et donc, voilà, il a été assez déçu de mon analyse.
Vous avez vu passer entre vos mains des faux, mais vraiment grossiers, parce qu'on évoquait il y a quelques instants le fait que dans les trésors, notamment pour l'Antiquité romaine, il y a beaucoup de vrais. Et les gens savaient, avaient déjà écarté les faux. C'est facile parfois de dire, ça, on voit que c'est un faux.
Bien, nous, on récupère une pièce qui a pu séjourner pendant des siècles dans la terre. Et donc, quand il s'agit d'une monnaie plaquée, donc avec cette âme en cuivre, en alliage cuivreux et cette argenture d'argent, cette structure est tout à fait propice au développement de la corrosion. Et les produits de corrosion du cuivre occupent plus d'espace que le métal cuivre, si bien que la couche d'argenture peut se fissurer et peut sauter. Et bien souvent, la monnaie est donc abîmée de telle sorte qu'on voit assez facilement qu'il s'agit d'une fausse monnaie antique, en fait.
Comment ils faisaient dans l'Antiquité, par contre? Parce que, les faussaires sont des gens très très malins, ils font de belles pièces. Comment on arrive à identifier? On a tous en tête l'image des gens qui rognent. C'est très médiéval, ça, les gens qui rognent les monnaies. C'était déjà ça dans l'Antiquité, on croque dedans pour voir si c'est de l'or ou de l'argent ou un autre métal.
Oui, on teste les monnaies, on vérifie les monnaies. Alors, il y a toute une série de moyens qui sont employés dans l'Antiquité. Un certain nombre de textes en parlent. La première chose, évidemment, alors vous savez, c'est l'expression qu'on utilise encore, c'est sonnante et trébuchante. Une pièce d'argent ou d'or, elle n'a pas le même son quand on la fait teinter qu'une pièce de cuivre, par exemple, ou de bronze. Donc, on va écouter le métal, on va la peser, évidemment, parce que la monnaie, c'est un objet standardisé. Donc, un tétradrachme, normalement, il doit toujours faire à peu près, mais à peu près, c'est à 0,1 gramme près, je veux dire, le même poids. Et donc, on va tester le poids, on va tester le son. Et Épictète parle de moments où on va sentir même éventuellement la pièce en la faisant un petit peu chauffer. On va la tester en l'entaillant. Alors ça, on a des quantités astronomiques de monnaie dans le monde grec qui ont été entaillées. Et là, évidemment, ce qu'ils cherchent, c'est savoir si la monnaie est fourrée. Et ça vaut finalement pour validation. Et on a comme ça dans les cités grecques des vérificateurs, de dokimastai, dont c'est le rôle, en fait, c'est-à-dire de valider la pièce qui va rentrer sur le territoire civique. C'est connu dans à peu près toutes les cités grecques. Vous avez ça, c'est sur l'agora ou c'est au port, et puis vous lui apportez vos monnaies. Et puis, alors, soit vous avez des monnaies étrangères, bon, il n'en veut pas, il va vous donner de la monnaie locale. Très bien, mais surtout il va tester les monnaies. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Alors il va la poinçonner, il va la tester, et si elle est bonne, vous pouvez l'utiliser, et puis tout le monde sera obligé d'accepter votre monnaie.
Le fait qu'elle soit entaillée ne lui enlève pas sa valeur.
Non,
au contraire,
même ça garantit sa validité. Et d'ailleurs, on a un cas assez amusant de production de monnaie. Alors, on est plutôt dans le sud de la Phénicie, mais à l'époque achéménide, mais ce sont des monnaies, ce qu'on appelle quand même des monnaies grecques. Dans l'Israël et Palestine actuelle, où on a un atelier monétaire qui très probablement tester ces monnaies quand il les produisait. C'est-à-dire qu'il produit ces monnaies et puis il les entaille toutes systématiquement parce qu'on est tellement habitué à tester ces monnaies que c'est devenu finalement une garantie de confiance. Donc on mettait en circulation les pièces déjà vérifiées. C'est plus pratique.
Très très mal, hein, ces faussaires. Charles Parizeau-Sillon.
Oui, ce que ça permet de dire, c'est que ces essayeurs Justement, ce sont des figures familières des usagers des marchés de l'Antiquité. Hein, dans le monde romain, on les appelle les numulari, en l'occurrence, et ils sont présents sur les marchés. Et en effet, alors ils peuvent être employés par la cité ou actifs à leur propre compte. Mais on a besoin d'eux pour tout un tas de services. Et par exemple, quand on retrouve, alors là, pour le coup, on en a quelques-uns quand même, des contrats de vente, par exemple, pour des biens précieux, des maisons, des terres, des esclaves qui nous sont parvenus sur papyrus, par exemple, il est toujours, très souvent, fait mention que la somme la transaction a été effectuée avec de l'argent qui a été bien compté et de bonne aloi. Ce qui veut dire que, en fait, cette somme, elle a été confiée à l'expertise d'un numularius, et qu'en fonction, avec témoin, bien sûr, et qu'en fonction de cela, la transaction, bien sûr, est valide.
Avec ici l'idée des gestes à reproduire, dites-nous, Maryse Blette-Lemarquant, quand vous avez cette pièce, vous commencez, en réalité, ce que vous disiez, par... regardez, pesez. Alors, je ne sais pas si vous la sentez aussi, pourquoi pas, tant qu'à faire, ça ne mange pas de pain.
C'est vrai qu'on l'examine à différentes échelles et sous la loupe binoculaire. C'est un indice très, très, très précieux avant de se dire, on va l'analyser avec diverses méthodes, plus ou moins sophistiquées. Une première approche, c'est une méthode qu'on appelle fluorescence X, qui est très répandue, qui n'analyse que la surface de la monnaie, mais qui nous renseigne au moins sur ce que contient donc cette monnaie en proche surface.
La loi, c'est quoi ? C'est le bon aloi ? C'est l'alliage, c'est ça ?
La loi, en fait, c'est la proportion de métal précieux que contient la monnaie.
Et donc, ça, vous arrivez à l'identifier très bien ?
Bien sûr, avec donc des méthodes plus ou moins sophistiquées, qui analysent certes en surface, mais grâce au micro-prélèvement que nous faisons, nous allons au-delà de cette surface et allons donc à l'intérieur de la pièce.
Puis on a bien compris que ces pièces que vous avez ont passé quelques siècles sous terre le plus souvent, elles ont subi les affronts du temps, donc elles ont perdu un peu de leur surface, peut-être un petit peu de métal aussi, donc pour le poids, ça ne veut rien dire. Qu'en est-il de leur son sonnante et trébuchante ?
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, mon seigneur, il est 8 heures, oui, oui, oui.
Il en manque une.
Vous êtes sort?
Tout à fait sort.
Oh, ben ça alors.
Regardez sous le lit.
La folie des grandeurs. Yves Montand, Louis de Funès, bien sûr, dans le film de Gérard Horry en 1971, avec Julien Olivier. Peut-être la volonté de les faire sonner et trébucher dans le médaillé de la Bibliothèque nationale. Non, elles sont préservées.
Oui, je vais vous rassurer, on ne fait pas ça avec nos 600 000 médailles. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, alors, on n'a sans doute pas l'expertise de ces essayeurs de l'Antiquité qui devaient faire ça toute la journée et qui devaient. Si on en croit les textes, étaient capables quand même d'un grand degré de précision dans leur analyse. Mais c'est vrai que nous-mêmes, en manipulant des pièces, alors avec des gants malgré tout, etc., mais on arrive, je pense, moi je pense que sans la regarder, je saurais si j'ai une pièce de bronze ou une pièce d'argent dans les mains. Je suis capable de le savoir sans l'avoir, je pense. Mais c'est déjà pas mal. Vous
c'est déjà énorme.
Mais donc ça veut dire que oui, ça devait fonctionner. En tout cas, tous les textes attestent que c'est une vraie technique efficace.
Charles Parizeau-Sillon, parce que ces gens de l'Antiquité qui avaient tous les jours entre les mains des dizaines, des centaines de pièces censées être identiques, quand il y en a une qui est différente, c'est vrai qu'on peut la repérer. Aujourd'hui, pour l'historien, pour l'archéologue, c'est plus difficile parce que c'est la multiplication des cas qui permet de dire les choses. Or, parfois, il n'y en a pas beaucoup du même type.
Alors, c'est vrai, ça dépend des monnayages, bien sûr. Il y a même certains monnayages pour lesquels on a parfois autant de monnaies, disons, qu'on qualifie, nous, très pudiquement de douteuses que de vraies monnaies. Le principe quand même de la monnaie, c'est que c'est un objet qui se retrouve en série. Donc très souvent, malgré tout, la fausse monnaie est portion congrue de ce qui nous est parvenu malgré tout. Il est vrai que, disons que parfois, pour certains monnayages, il y a des ramifications, disons. C'est-à-dire qu'il y a des ensembles de monnaies bizarres, dont on ne sait pas très bien si elles émanent des ateliers officiels. Peut-être que certaines monnaies officielles ont été imitées ailleurs. Et puis, ça nous donne des choses, on va dire, plus compliquées à percevoir que peut-être ce qu'on pourrait croire. Bon, mais ça reste un cas, je crois, atypique.
Mais vous aussi, si vous avez des monnaies entre les mains, vous arrivez à dire celle-là est probablement, non pas fausse, mais doute celle-là, on peut vérifier.
c'est pas toujours facile, mais il est vrai que, effectivement, je dirais d'un point de vue sensoriel, sans avoir l'expertise des essayeurs de l'Antiquité, on peut quand même percevoir souvent des différences. Et d'ailleurs, nous, quand on fait des expérimentations, quand on cherche à produire, reproduire des monnaies, par exemple plaquées, c'est ce qu'on a fait aussi, la première chose qu'on fait après avoir frappé, c'est les faire sonner pour voir justement si elles ressemblent aux monnaies que nous, on connaît, les plaquées ou les vraies. Et on essaie de reproduire le plus possible le son des vraies, bien sûr.
C'est de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de recréer des monnaies comme à l'antique. Alors, comme à l'antique, peut-être pas un atelier officiel, mais au moins un faussaire.
Tout ce qui est plus officiel, ça s'appelle la plateforme des arts du feu, c'est à Mel. Et tous les ans, on fait des expérimentations archéométallurgiques là-bas, diverses et variées. Hein. C'est notre collègue Florian Térejol qui anime cette plateforme. Et il se trouve qu'il y a un programme auquel Maryse et moi participons, effectivement, qui vise à reconstituer la chaîne opératoire de la production des deniers plaqués. C'est notre collègue Guillaume Blanchet qui est à l'initiative de ce projet. Et ça permet de poser plein de nouvelles questions qu'on ne s'était pas posées, effectivement. Donc, on produit, oui, des monnaies plaquées en public, avec des visiteurs. Qui plus
c'est vrai, on peut y aller. Il va falloir qu'on mette ça sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr. Maryse Blette-Lemarquant, cette démarche-là, c'est toujours stimulant, évidemment, l'archéologie expérimentale, parce que quand l'objet nous arrive et est exposé dans un musée, on est ravis de le voir et surtout d'avoir l'explication, sinon... Pour les monnaies, on ne comprend pas grand-chose, donc c'est pour ça que la médiation est très importante. Mais la démarche de faire la monnaie, ça... Alors vous les accompagnez de quelle manière ?
Eh bien, je participe aussi dans ces sessions expérimentales pour tenter de retrouver les gestes du passé. Enfin, il faut être un petit peu plus modeste parce que en quelques jours, quelques semaines de travail, on ne peut pas retrouver cette expertise que les anciens métallurgistes bronziers avaient mis des années probablement à acquérir. Mais au moins, ce qui est intéressant, surtout après notre première session, on s'était aperçu qu'on n'était pas très content du résultat. Il y avait des défauts qui nous apparaissaient assez grossiers et qu'on n'arrivait pas à masquer. Mais on s'est aperçu que sur les vraies fausses monnaies antiques, on retrouvait ces mêmes défauts. On était donc sur la bonne piste. Il fallait certes améliorer le procédé, mais on tenait là une des clés de la production de monnaies antiques plaquées de l'époque romaine.
Alors, on ne va pas inciter les fausseurs à œuvrer, mais quels sont les principaux défis ? C'est quoi là, le petit truc entre l'Antiquité et aujourd'hui ? Toujours le même ?
Toujours le même. Donc, donc les faussaires de l'Antiquité donc partaient d'une rondelle vierge en cuivre ou en alliage cuivreux, donc du bronze, qu'ils recouvraient de deux disques d'argent, un peu à la manière des pièces en chocolat. Donc vous voyez, la difficulté, dès lors qu'on recouvre, c'est le bord, la partie où il y a ce recouvrement qu'il faut faire disparaître.
Eh oui.
Ça, c'est toute la gageure pour que la monnaie soit acceptée.
Mais il y en a qui y arrivaient dans l'Antiquité, au sens où il y avait de très beaux faux.
Tout à fait, mais en examinant avec un œil un peu plus averti et en recherchant cette zone de recouvrement près du bord, on s'est aperçu que finalement, pas mal de faux antiques l'avaient aussi.
Et à la Bibliothèque nationale, dans le cabinet des médailles Julien Olivier, il est difficile de dire ce qui est faux et pas faux, parce que, nous l'évoquions tout à l'heure, pour savoir ce qui est faux, il faut avoir des points de comparaison, et parfois il n'y en a pas.
Oui, exactement. Puis la définition même de faux pose problème. Enfin, le cas des monnaies athéniennes, tout à l'heure, on en parlait. Et alors, à la Bibliothèque nationale, les collections sont rangées de telle manière que... donc, il y a un médaillé principal où vous avez les collections rangées dans l'ordre, très bien rangées, très bien décrites. Et on va avoir tendance à mettre les faux antiques à la suite des monnaies officielles. Mais encore une fois, on en a assez peu. Hein. Ce qu'on a le plus nombreux, finalement, c'est des faux... beaucoup plus tardifs, des faux modernes, mais des faux antiques, on va les laisser avec les monnaies antiques à côté, et parfois c'est des choses qui étaient évidentes et qui ont été repérées depuis très longtemps, parfois comme le cas de la pièce que j'évoquais tout à l'heure, ça ne fait que quelques années qu'on a pu les repérer.
C'est-à-dire que l'histoire même du cabinet des médailles fait que des faux ont été inclus peu à peu, parce que c'est une histoire ancienne, et Maryse Blette-Lemarquant n'était pas là pour leur dire au XVIIe siècle « Attendez, moi je regardais un peu votre monnaie, vous dire si c'est une vraie ou une fausse. » C'est pour ça, longtemps, il était difficile de différencier un vrai et un faux.
Là, vous parlez des faux antiques.
Des faux antiques.
Oui, oui, tout à fait. Il était difficile de le faire, à part si c'était évident. Et effectivement, il y en a beaucoup qui ont été intégrés sans forcément se rendre compte que c'était des faux.
Oui, parce que c'est ça qui est génial dans cette histoire-là, c'est que des faux antiques, il y en a fabriqués durant l'Antiquité, puis il y en a qui sont fabriqués après, longtemps après, par exemple au XVIe siècle, au moment de la Renaissance.
Les Français connaissent actuellement un engouement pour l'antique. Objets de fouille tels que les monnaies, les statues, les vases, les bijoux atteignent des prix qui ont incité certaines personnes peu scrupuleuses à faire des faux. Faux plus ou moins bien réussis, mais qui ne résisteront pas, s'ils sont en métal, à un examen approfondi de M. Franz Lanor, conservateur du musée du fer de Nancy.
Comment faites-vous pour reconnaître les vraies monnaies des fausses monnaies ?
Eh bien, le problème est souvent posé. On commence par une série d'examens stylistiques pour voir si la monnaie n'est pas purement et simplement aberrante. Et si la monnaie est présumée bonne, on fait ensuite des examens microscopiques et macroscopiques qui permettent de déterminer la nature du métal, sa cristallisation et éventuellement même son ancienneté ou son manque d'ancienneté.
Alors ensuite, vous allez faire une réplique.
Eh bien oui, la réplique, justement voilà la réplique de cette monnaie. Ce moulage, nous le plaçons dans un microscope traditionnel et nous l'examinons par transparence. Et alors ceci nous donne la structure du métal. On peut distinguer les moindres cristaux. S'il y a eu une corrosion qui est pénétrée en profondeur, on a même des arrachements de cristaux qui sont très caractéristiques et qui nous montrent avec, disons, une certaine expérience, mais finalement une assez bonne certitude, si oui ou non le métal est ancien, s'il s'agit d'une pièce qui est vraiment très haute antiquité, ou si au contraire il s'agit d'une pièce fabriquée récemment et artificiellement corrodée.
Avec cette archive de 1971, Maryse Blette-Lemarquant, vous avez plein d'éléments qui font écho à ce que vous faites aujourd'hui. Alors, pas les mêmes outils exactement, nous sommes dans les années 1970. Et dans l'idée de rechercher des fausses monnaies antiques, il ne faut pas réfléchir qu'à l'Antiquité. C'est ça qui est génial, c'est de se dire qu'à la Renaissance, au moment où sont redécouverts les arts de l'Antiquité, c'est formidable d'avoir des monnaies antiques, mais quand on les a pas, autant les fabriquer.
C'est vrai, et pour répondre à la demande des antiquaires qui collectionnaient les monnaies antiques, on a fabriqué des fausses monnaies à l'époque de la Renaissance. Des sortes de fantaisies, mais bien souvent l'approche stylistique suffit à les distinguer.
Ah oui, c'est-à-dire que c'est plus répondre à un fantasme de monnaie antique qu'à une réalité. On sait qu'on ne va pas payer avec ces monnaies-là, c'est ça.
Alors, effectivement, c'est une époque qui est intéressante parce que c'est l'époque bénie où la monnaie était une des sources majeures de l'histoire. Aujourd'hui, on est un peu une sous-science, malheureusement. Mais à cette époque-là, imaginez, on a redécouvert les textes, effectivement, à la Renaissance depuis quelques temps. Et l'archéologie n'existe pas vraiment. Il y a assez peu d'objets antiques, finalement. Et la monnaie est là. C'est-à-dire que la monnaie, on a toujours continué à la trouver. On les a toujours dans les trésors d'église ou dans un certain nombre de lieux où on a pu la retrouver, à Rome ou ailleurs. Et donc, on a assez vite, évidemment, compris que les portraits qui étaient sur ces monnaies, c'était les empereurs dont nous parlait Suétone, c'était les personnages dont nous parlait Plutarque, etc. Et donc, il y a effectivement un engouement pour la collection de monnaies anciennes qui naît à la Renaissance, un engouement complètement fou, hein, effectivement, avec des milliers de collections à travers l'Europe, et dans un but un peu précis au début, c'est-à-dire c'est d'illustrer les vies des hommes illustres. Alors c'est un style littéraire un peu dans le style de Plutarque, enfin Pétrarque fait ça, d'autres font ça, et on peut les illustrer. Avec quoi ? Avec les portraits monétaires. Alors vous avez la tête de César, la tête de Titus, la tête d'Alexandre le Grand, puis alors pas de chance, il y en a qui sont pas là quand même. Donc pourquoi pas les créer ? Et ça c'est ce qui se passe, mais pas forcément d'ailleurs dans un premier temps, dans le but de tromper, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces artistes, on pense à Valerio Belli au XVIe siècle par exemple, ils vont créer des pièces et ils sont reconnus pour ça. C'est-à-dire que Vasari va parler de Valerio Belli en disant que c'est un grand artiste italien. Et certaines de ses publications qui illustrent ces médailles disent très bien que ça a été fait par des très bons artistes italiens. Le problème, c'est que parfois c'est tellement bien fait que même si elles n'ont pas été créées pour tromper, alors peut-être qu'après elles ont été créées pour tromper, mais même si elles n'ont pas été créées pour tromper, elles ont fini par tromper. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, alors je donne l'anecdote parce que c'est amusant, puis ça vous sera l'occasion d'une balade dans Paris, le bâtiment de l'aile Vivienne de Richelieu, donc celui qui abrite le cabinet des médailles et le musée de la Bibliothèque nationale, est décoré de grands médaillons de pierre. Qui font 80 cm de diamètre et qui représentent les grandes époques de la monnaie. Alors vous avez une monnaie grecque, vous avez une monnaie romaine, c'est un sesterce de Galba, vous avez une médaille de Pisanello, je crois, un Louis XIV, etc. Et bien, Le sesterce romain, c'est sans doute un sesterce de la Renaissance, en fait, et ils l'ont pris par erreur. Et donc, vous avez un faux de la Renaissance parfaitement bien regravé sur la façade du cabinet.
Oui, parce que c'est ça le fantasme, c'est d'avoir l'ensemble des empereurs comme ça en continu, et comme vous le disiez, s'il en manque, il faut en trouver. Charles Parizeau-Sillon, ce qui est important à évoquer ici, c'est que le faux ne doit pas être écarté tant il nous apprend du passé. C'est ça qui est sidérant, hein, c'est que bien souvent, on se dit, bon, bah, c'est faux, allez, je vais le mettre de côté. Non, c'est faux, donc je vais l'étudier.
Bien sûr, et je dois même... Comment dire, la fausse monnaie, par son ampleur d'abord, elle nécessite d'être étudiée. C'est-à-dire qu'on parle d'un phénomène massif, structurel. Les économies antiques, mais même plus récentes, emploient de manière considérable de la fausse monnaie. Donc déjà, ne serait-ce que pour tenir compte de la documentation qui nous parvient, il faut l'étudier. Et puis ensuite, effectivement, ça pose plein de questions qui sont celles de la nature, des relations entre un pouvoir politique, des usagers, et puis d'autres individus, des artisans par exemple. Donc, on peut faire de l'histoire sociale, de l'histoire économique, de l'histoire technique, on peut faire une histoire, comme on dit souvent, totale en fait, avec la question du faux, et notamment la question de la fausse monnaie.
Avec ici, on l'a bien entendu dans le cas de la Grèce antique, un destin assez sombre pour les faux monnayeurs qui se font prendre. Ou les autres, ils sont contents. Et qu'en est-il dans la Rome antique ?
Sont concernés par la loi Cornelia sur les testaments. Ceux qui auront rédigé, lu publiquement, substitué, supprimé, décelé ou effacé un testament ou tout autre document faux. Ceux qui auront gravé, moulé, enlevé ou décelé un sceau contrefait. Ceux qui auront falsifié, lavé, refondu, rogné, altéré ou détérioré des monnaies d'or ou d'argent, ou bien qui auront rejeté comme non authentique une monnaie frappée au nom du prince autre qu'une monnaie falsifiée. Les personnes de haut rang sont déportées dans une île. Les personnes de rang inférieur sont envoyées aux mines ou livrées à la crucifixion. Les esclaves, s'ils ont été affranchis après avoir commis le fait, sont punis de mort. Celui qui aura, au préjudice de quelqu'un, détruit, altéré, substitué ou contresigné des comptes, actes, registres publics, témoignages, cautions, reconnaissance de dette ou lettres, celui qui aura doré ou argenté du bronze, celui qui, en déposant de l'argent ou de l'or, aura substitué du bronze ou de l'étain, est puni de la peine du faux.
Ah bah c'est la loi, hein. C'est la loi telle que racontée par Paul. Alors Paul, c'est le juriste, hein, Iulius Paulus du 3e siècle après Jésus-Christ, juriste romain. Et là, Charles Parizeau et Maryse Blette-Lemarquant n'emmènent pas l'âge parce qu'ils se disent, mince, nous, avec notre archéologie expérimentale, on tombe sous le coup de la loi. C'est vous, hein, Charles Parizeau-Sillon, qui avez traduit ce texte. Qu'est-ce que ça signifie? C'est toujours le risque, hein, entre ce que dit le juriste ou ce que dit la loi et puis la réalité des faits. Mais en tout cas, ça nous dit qu'il y avait du faux. Beaucoup de faux.
Alors, bien sûr, d'abord, on peut même inverser la chose. Ça peut paraître étonnant, mais dans le droit romain, alors qu'il nous est parvenu, bien sûr, par les recueils juridiques de l'époque impériale, on n'a pas de définition synthétique positive de la monnaie authentique. En revanche, on définit ce que c'est que le faux, précisément. Et donc, la monnaie authentique, dans le fond, c'est celle qui n'est pas fausse. Alors, donc, oui, on voit que le droit romain s'est emparé de cette question. Et donc, il y a deux lois dans le droit romain qui peuvent permettre de poursuivre des faux monnayeurs. Mais la plus importante, c'est celle sur laquelle, ici, effectivement, revient ici le juriste Paul. C'est la Lex Cornelia sur les testaments et la monnaie. Donc, on appelle aussi la Lex Cornelia de falsis sur le faux. La même, d'ailleurs, hein, celle qui institue le crime de faux, le crimen falsi, dont vous reparlerez en fait demain, hein, avec Paul Bertrand. Donc c'est une loi qui a été promulguée à la fin des années 80 avant notre ère, mais dont périmètre s'est élargi au fur et à mesure de l'époque romaine, disons jusqu'à la fin de l'Antiquité, et qui permet, comme on l'a compris, donc de poursuivre et de qualifier en faux, disons, de faux testaments, d'une part, parce qu'il y en a beaucoup, de faux sceaux, hein, pour sceller les documents, et donc également de fausses monnaies. Donc non seulement on peut, grâce à ce dispositif-là, poursuivre les faussaires, mais à la fin de l'Antiquité au moins, on peut également frapper des mêmes peines tout individu qui pourrait être considéré comme complice, soit parce qu'il n'a pas dénoncé des activités de falsification dont il avait connaissance, soit plus simplement parce qu'il aura conservé, acheté ou vendu par dol, donc volontairement et frauduleusement, des monnaies fausses. Donc oui, bien sûr, c'est une question dont le droit s'est emparé. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire, c'est que les peines sont sévères, on l'a entendu, et ça n'a pas empêché les faussaires d'être d'œuvrer, hein, bien au contraire. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête quand même, je crois que c'est important de l'avoir présent à l'esprit, c'est que le droit sert avant tout à protéger les intérêts d'une autorité politique. Et donc, les usagers d'une part, mais aussi les représentants du pouvoir impérial, n'ont jamais utilisé systématiquement le droit. Et donc l'objectif pour le pouvoir impérial romain, en fait, c'est de se protéger, de veiller à ce que, par exemple, les impôts soient perçus correctement, hein, ce genre de choses. En revanche, il n'a jamais été dans les attributions des gouverneurs de se saisir de tous les cas de faux monnayage qu'ils pouvaient rencontrer.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a ce fantasme du faux monnayage comme un crime très très fort et absolu qui va mettre en péril l'État. C'est un très grand crime, mais on entend bien que c'est pas non plus le premier des crimes, mais il répond surtout à une utilité. Et dans les faux qui peuvent être identifiés ici et là, Julien Olivier, est-ce que vous pouvez nous conduire à Marseille? Enfin, avec de l'or, bien sûr.
Oui. Alors, parce que effectivement, c'est un cas de faux, mais alors en l'occurrence de faux monnaie. Avant, je redirais juste une chose, la dureté de la loi, effectivement, je pense qu'elle a toujours existé sur la monnaie. C'est-à-dire que on a vu le cas de Dimé tout à l'heure, c'est pareil, c'est la peine de mort a l'air d'être la condamnation de base. Mais encore aujourd'hui, dans le droit français, oui. Enfin, du coup, j'ai été vérifié hier, la fabrication de fausses monnaies ayant cours, c'est 30 ans de prison et 450 000 euros d'euros d'amende. Donc c'est extrêmement lourd, hein, aussi. Donc, enfin, dans tous les droits nationaux, on voit que la fabrication de fausses monnaies, c'est forcément des peines très très lourde.
Voilà, on va pas faire bouillir les faux monnayeurs, mais on n'en est pas loin.
Oui, alors pour le cas de Marseille, alors on en revient à une production de faux de la Renaissance, sans doute. C'est-à-dire que effectivement, quand on commence à s'intéresser à la monnaie, à l'époque de la Renaissance, et vouloir écrire l'histoire en l'illustrant avec la monnaie, on va lire les textes et puis on va chercher les objets. Et donc on lit les textes qui parlent de l'histoire de Marseille. Et puis, dans les textes sur l'histoire de Marseille, il est à plusieurs, deux reprises au moins, évoqué l'usage d'or. C'est-à-dire que les Marseillais, ils payaient les dots pour les mariages en pièces d'or, par exemple. C'est une mention qui est donnée. On sait aussi qu'au moment où Rome a été conquise par Brennus, les Gaulois, on est en 390 avant Jésus-Christ, eh bien Marseille aurait envoyé de l'or pour aider à payer la rançon demandée, le tribut demandé par les Gaulois. Problème, on n'a pas de monnaie d'or de Marseille.
Aïe.
C'est embêtant. Du coup, on les a fabriqués. Et on en a un exemple dans les collections de la Bibliothèque nationale, d'une pièce qui a été publiée très tôt, dès le XVIe siècle, par Golsus. Mais en fait, c'est un faux. C'est un faux de la Renaissance qui simplement comble une lacune.
D'où le médaillé des faux à la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire que voilà, on va avoir ces faux qui ne sont pas mis de côté avec, il faut le rappeler, la qualité esthétique de ces pièces, parce que c'est quelque chose que l'on oublie souvent, hein. On parle de leur valeur, mais ce sont de véritables œuvres d'art. Maryse Blec-Lemarquant, avec des pièces fausses, parfois on peut être surpris par la qualité. Je pense que vous dites parfois, il est bon ce faussaire, quoi, c'est une réussite.
Oui, c'est vrai. Et puis, des faussaires modernes ont pu employer un métal moderne, donc qui peut être avec très très peu d'impuretés, alors que les monnaies antiques, elles contiennent, elles, des impuretés qui traduisent les procédés d'affinage en vigueur à l'époque donnée.
Oui.
C'est vrai qu'il y a une différence fondamentale entre les faussaires de l'Antiquité qui font de la fausse monnaie et les faussaires moderne, de la Renaissance ou postérieure, évidemment, c'est qu'on ne veut pas tromper la même personne. Mmh. C'est-à-dire que le faussaire de l'Antiquité, il va faire une pièce qui lui permettra de gagner de l'argent sur le contenu métallique. Le faussaire moderne, lui, il va essayer de faire un objet qui soit attractif pour quelqu'un qui s'y connaît plus ou moins dans la monnaie et qui veut de beaux objets. Donc c'est pas le même objectif, et du coup ce ne sont pas les mêmes objets.
Et c'est en cela que cette histoire des fausses monnaies antiques est fascinante, parce qu'elle nous fait traverser les siècles. On passe par la Renaissance et on entend bien que le faux, c'est pas simplement pour s'enrichir en disant « je remplace une monnaie par une autre ». Merci vivement à tous les trois d'être venus dans le cours de l'histoire. Merci beaucoup. Prochain épisode, forgerie médiévale, faux chartes, mais vrai du prix.
Les textes, les livres qui font l'histoire. L'histoire que l'on considère vraie, puisque justement, il y a là la trace, la preuve écrite des événements passés. Seul inconvénient, ici, ces documents, pour la plupart, sont faux. Ainsi, ces faux manuscrits fabriqués au 8e siècle qui portent une responsabilité politique quasi millénaire.
Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Cassandre Puel, avec à la technique Anthony Thomasson, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Maïwen Guizhou. Merci à Lina pour son aide dans la recherche d'archives. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.